Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Lettre circulaire. Décembre 2007. Je salue cordialement tous les frères et sœurs d'entre tous les peuples, de toutes les nations, et de toutes langues avec le passage de 2 Corinthiens 4, 5 et 6. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit, « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Cela s'applique à tous les vrais serviteurs de Dieu. Aucun d'eux n'a eu à se présenter lui-même. Tous ont servi le Seigneur et en même temps le peuple de Dieu, chacun selon son appel et son envoi. L'apôtre Pierre, en se référant à ce qui précède, écrit qu'ils étaient des hommes qui ont prêché l'Évangile par la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel, des choses dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard. 1 Pierre 1, 12. Quelle merveilleuse déclaration! Il est également fait mention de la création dans le passage de l'introduction. Dieu qui a dit, « Que la lumière soit, et la lumière fut, et le même qui fait aussi briller la lumière dans les cœurs des vrais croyants, la lumière de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. » Amen. L'apôtre Paul fait remarquer plus loin que les croyants ont l'esprit de foi, lequel est le seul moyen pour qu'ils croient comme le disent les Écritures. En effet, au verset 13 il est écrit, « Et, comme nous avons le même esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Cela s'applique aussi à tous les serviteurs de Dieu. » Cela est d'une importance capitale, que nous croyions réellement comme le dit l'Écriture. La question pertinente est toujours, que disent les saintes Écritures, qu'enseigne la Bible? Toute interprétation est une machination, un mélange de l'ennemi, une semence étrangère, un mensonge religieux. Le Seigneur sème la parole originale, comme il est écrit dans Marc 4, 14. Luc 8, 11. La semence, c'est la parole de Dieu. Satan est l'autre semeur, le malin, qui sème la semence de discorde en créant des dissensions par ses interprétations. Deux sortes de semences croisent dans le même champ. La bonne semence, est livrée. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Matthieu 13, 37 et 38. Est livrée, est la semence du malin. Les deux semences reçoivent la même pluie, et se réjouissent ensemble de la chaleur du même soleil, qui brille sur les méchants et sur les bons. Matthieu 5, 45. C'est à leurs paroles, à leurs œuvres et à leurs fruits, que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Matthieu 7, 15 à 20. Les enfants de Dieu ont la nature divine, les caractéristiques de Christ, avec toutes les vertus que possède un homme né de nouveau. Galates 5, 22 à 24. Les fils du malin, au contraire, ont la nature de leur père, et accomplissent ses œuvres, comme cela fut déjà manifesté en Caïn. La jalousie, la haine, et l'envie qui l'ont finalement conduit au fratricide. 1 Jean 3, 10 à 12. Le Seigneur lui-même a prédit ce qui arrivera à la fin du temps de la grâce. Or, comme on arrache l'ivraie, et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales, et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs, et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Matthieu 13, 40 à 43. Comme nous le savons tous, Dieu a lui-même donné la promesse dans Malachie 4, 5, qu'il enverrait un prophète comme Élie avant l'arrivée du jour terrible et redoutable du Seigneur. Dans Matthieu 17, 11 et Marc 9, 12, notre Seigneur a rendu cela plus clair pour nous. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Selon le « Ainsi dit le Seigneur ». C'est par ce dernier ministère prophétique que chaque enseignement dans l'Église du Nouveau Testament doit être ramené à sa position originale. Le dernier message qui précède le retour de Christ restaure toutes choses et prépare l'Église pour le ministère final. Par ce message, l'Église doit être ramenée à son état original, dans l'enseignement et dans la vie pratique. Les cœurs des enfants de Dieu sont ramenés au commencement, à la foi des pères apostoliques. Acte 2, 42. C'est la préparation de la troupe des vainqueurs, lesquels lors du retour de Christ expérimenteront la plus grande promesse que Dieu ait donnée dans les saintes Écritures. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Apocalypse 3, 21 et 22. La véritable Église de Jésus-Christ est le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Mais auparavant, l'appel à sortir de tout ce qui n'est pas en accord avec Dieu et avec sa parole doit avoir lieu. C'est pourquoi, sortez du milieu de tout système religieux, y compris l'écuménisme, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Car quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres, ou quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou même l'Antéchrist, 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Après l'appel à la séparation et à la purification, l'apôtre Paul se réfère à la parole de 2 Samuel 7, 14, où il est dit en rapport avec le Fils de Dieu. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Hébreux 1, 5. L'apôtre applique également la même promesse à tous les fils et les filles de Dieu. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens 6, 18. Par l'œuvre de la rédemption accomplie à la croix de Golgotha par le Fils de Dieu, nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu, comme cela est écrit dans Galates 4, 5 et dans d'autres passages. Afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Car celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi, il n'a pas honte de les appeler frères. Hébreux 2, 10 et 11. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Psaume 22, 23. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean 20, 17. Nous lisons dans Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit de Dieu conduit dans toute la vérité et la parole est la vérité. En conclusion, l'apôtre explique comment toute la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu, et qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, afin d'avoir part à la liberté de la gloire promise aux enfants de Dieu. Romains 8, 19 à 25. Dieu dans sa préscience avait cet objectif final au travers de la réalisation de tout son plan du salut. C'est ce but que nous nous efforçons d'atteindre, et toutes les peines, toutes les souffrances que nous endurons, en vaudront la peine. Le but devant les yeux. Le retour de Jésus-Christ demeure notre sujet principal. À cela est lié l'appel à sortir, et la préparation de l'Église épouse pour la rencontre de l'Époux céleste. La condition préalable est la parfaite harmonie avec Dieu, et sa parole sous la conduite directe du Saint-Esprit. Tout à la fin, les véritables croyants doivent être, et seront un seul cœur et une seule âme, comme au commencement. Acte 4, 32. Car il ne peut y avoir des doctrines étrangères, ou des faux frères au sein de l'Église épouse. Même si ce qui suit a été mentionné à plusieurs reprises, nous devons une fois de plus le répéter. Chaque doctrine, et toutes les pratiques au sein de l'Église de Jésus-Christ, doivent être en accord avec la parole de Dieu. Le dernier baptême sera exécuté au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme il en fut du premier baptême ordonné au jour de la Pentecôte. Acte 2, 38 à 41. L'Église primitive du temps des apôtres est l'unique modèle valable pour tout ce qui est de l'enseignement et de la pratique. Il est bien connu que toutes les églises et églises libres se réfèrent à la Bible, tout en suivant leurs propres enseignements et traditions religieuses. L'union des religions, sous les auspices de l'écuménisme, est en réalité une union avec Rome. Mais pour l'Église de Jésus-Christ, le seul évangile légitime est celui qui est sorti de Jérusalem, celui dont il est fait mention dans les Saintes Écritures. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur, le Rédempteur viendra d'abord en tant qu'époux, pour son épouse, comme il est écrit dans Matthieu 25. Voici l'époux. Et comme il a lui-même promis. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, 1 à 3. Sur ce point, il ne parle pas d'un message, d'une doctrine ou d'une révélation, mais de lui-même, l'époux de nos âmes, qui reviendra, comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. Et dans Acte 1, 11. Ensuite les vierges sages seront prêtes et entreront, avec lui dans la salle des noces. Matthieu 25, 1 à 10. Apocalypse 19, 6 à 10. Cela sera une réalité absolue. Pour ce qui est du moment de l'avènement du Seigneur, nous lisons dans les Saintes Écritures. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Matthieu 24, 36. Il n'est donc pas question d'une période d'année, mais il est dit très clairement. Du jour. Et. De l'heure. Selon 1 Corinthiens 15, 52. Cela se passera en un instant, en un clin d'œil. Alors de deux hommes qui seront dans un champ. De deux femmes qui mourront à la meule. De deux personnes qui seront dans un même lit. L'un sera pris et l'autre laissé. Matthieu 25, 37 à 41. Luc 17, 34 à 37. À maintes reprises, l'apôtre a exhorté les croyants à persévérer jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, 7 et 8. 2 Corinthiens 1, 14. Philippiens 1, 6. Philippiens 2, 16. L'apôtre exhorte avec instance Timothée, son compagnon d'œuvre. Je te recommande de garder le commandement, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition, parousie, de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Timothée 6, 13 et 14. Selon Matthieu 24, notre Seigneur s'assit sur la montagne des Oliviers, et répondit aux questions de ses disciples. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement, parousie, et de la fin du monde? Le Seigneur dit, pour nous mettre en garde de la tromperie. Prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou, il est là, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient, et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement, parousie, du Fils de l'homme. Amen. Amen. Parousia, mot grec signifie venir en personne, être présent corporellement. Ce mot est utilisé 15 fois dans le Nouveau Testament, en rapport avec la venue de Christ. L'apôtre Paul a traité de ce sujet plus d'une fois dans ses épîtres aux églises. Dans 1 Thessaloniciens 4, il l'expose de manière détaillée sous la conduite du Saint-Esprit. Tout d'abord, il insista sur le fait que les bien-aimés frères ne devaient pas se faire de soucis au sujet de ceux qui sont morts en Christ. Il écrit, « Car, si nous croyons que Jésus est mort, et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu amènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Versets 13 et 14. Dans Matthieu 27, 45 à 54, il nous est relaté comment les saints de l'Ancien Testament sortirent des sépulcres après la résurrection de Jésus-Christ, entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. C'est ainsi qu'il en sera lors du retour de Christ. Les croyants qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens 4, 17. Cela aussi sera une réalité. Pour faire ressortir l'importance de ce qui précède, l'apôtre Paul fait remarquer au verset 15 qu'il ne transmettait pas sa propre opinion, mais qu'il s'agissait bien du « ainsi dit le Seigneur ». Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement, parousie, du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Cela ne pouvait être dit plus clairement. Ensuite vient la déclaration principale. Car le Seigneur lui-même, non pas un message, ou une révélation, mais le Seigneur lui-même, qui a dit, « Je reviendrai, et je vous prendrai avec moi. » À un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Cela sera une réalité. Quiconque croit et enseigne que Jésus-Christ est déjà venu, est manifestement séduit par un esprit de mensonge, et il séduit les autres. Car il interprète faussement les déclarations claires des saintes Écritures, comme Satan le fit dès le commencement. Enoch, le septième de la descendance d'Adam, nous est donné comme exemple en rapport avec l'enlèvement. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Hébreux 11, 5. Cela fut la foi en tant que révélation, qui déboucha dans la réalité. Pour Enoch, tout ne fut que réalité. Sa foi, le témoignage qu'il était agréable à Dieu, ainsi que son enlèvement. Avant que nous puissions prendre part à l'enlèvement, nous devons aussi être trouvés dans la foi et dans la révélation de la volonté de Dieu, afin que le bon plaisir de Dieu repose sur nous. Le témoignage rendu dans les Évangiles nous dit que le Fils de Dieu pria. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Lors de son baptême, l'Esprit de Dieu descendit sur lui, et la voix de Dieu fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Matthieu 3, 16 et 17. Darby. Déjà au commencement, Dieu avait porté un regard favorable sur Abel, suite à l'offrande qu'il lui avait faite. Genèse 4, 4. Le seul but des différents sacrifices offerts tout au long de l'Ancien Testament était d'obtenir la faveur de Dieu sur son peuple. Lévitique 1, 3. Lévitique 19:5. Lévitique 22:2a. Toutefois, malgré toutes les bénédictions que Dieu accorda au peuple d'Israël pendant les 40 années de leur marche dans le désert, malgré toutes les offrandes qu'ils apportèrent, en conclusion, le triste verdict fut. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. 1 Corinthiens 10, 5. Par le prophète Samuel, Dieu nous fait connaître ce qui est important à ses yeux. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. 1 Samuel 15, 22. Sur la montagne de la Transfiguration, la voix de Dieu retentit à nouveau dans la nuée lumineuse. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Écoutez-le. Matthieu 17, 5. Darby. Tous les fils et les filles de Dieu qui l'écoutent se feront baptiser dans l'eau et expérimenteront le baptême du Saint-Esprit. Ils marcheront dans la volonté de Dieu et seront agréables à Dieu, car ils sont prédestinés selon le bon plaisir de sa volonté. Éphésiens 1, 5. Enoch marcha avec Dieu, il fut agréable à Dieu, il fut enlevé, et ne fut plus trouvé sur la terre. Il en sera de même pour tous ceux qui auront part à la première résurrection, et à l'enlèvement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ceux qui vivent en Christ seront transformés, et tous ensemble nous serons enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. C'est ainsi que cela est écrit, c'est ainsi que nous le croyons, et c'est ainsi que cela arrivera. Avant d'être enlevé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. » 2 Rois 2, 9 et 10. Que ce soit Enoch ou Élie, celui qui a été enlevé, n'a plus été trouvé sur la terre. Nous lisons dans Luc 24, 50 à 53. Il les conduisit jusqu'au Berbétanie, et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut élevé au ciel. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, fut élevé au ciel corporellement sous les yeux de ses disciples pendant qu'il les bénissait. Un corps corruptible avait été mis dans le sépulcre, mais un corps incorruptible a été ressuscité. Après la résurrection, notre Seigneur dit, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Luc 24, 39. Il se montra aussi incorporellement, mangea et but avec ses disciples, comme il l'avait fait avant la crucifixion. Jean 21, acte 10, 40 à 43. C'est un corps de résurrection comme le sien que nous aurons, ainsi que tous les justes arrivés à la perfection du temps de l'Ancien et du Nouveau Testament, lorsque nous prendrons pas tous ensemble au repas des noces de l'agneau. L'enlèvement corporel d'Enoch fut une réalité. L'enlèvement corporel d'Élie fut une réalité. L'ascension corporelle de notre Seigneur et Sauveur ressuscité fut une réalité. De même, son retour corporel, la résurrection corporelle des morts en Christ, leur transformation, et leur enlèvement corporel seront des réalités absolues. Celui qui spiritualise le retour de Christ, doit accepter ce verdict. Car c'est ainsi dit le Seigneur. Car plusieurs séducteurs sont sortis dans le monde, ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ venant en chair. Celui-là est le séducteur et l'antéchrist. 2 Jean 7, Darby. L'apôtre Paul nous a informés à l'avance. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. 1 Corinthiens 15, 39 à 58. Quiconque enseigne que Jésus-Christ aurait déjà quitté le trône de la grâce, et serait en train de descendre depuis l'ouverture des sceaux en 1963, est grandement dans l'erreur. Interpréter faussement et sortir certaines déclarations de frère Branham de leur contexte, mène à ce que le vrai enseignement des saintes écritures soit méprisé et foulé au sol. La Bible ne rend aucun témoignage d'une révélation des sept tonnerres. Et on n'y trouve nulle part une parousie venue, qui ne soit pas physique. Celui qui ne croit pas, qui ne confesse pas et qui n'enseigne pas, que Jésus apparaîtra dans un corps de chair, lors de son avènement, et selon le verdict des saintes écritures, un séducteur, et un antéchrist. Si le trône de la grâce était déjà changé en trône de jugement depuis 1963, alors il serait déjà trop tard pour la plupart des croyants, car il n'y aurait plus ni de pardon ni réconciliation. Qu'en serait-il alors de ceux qui sont nés ou qui se sont convertis après 1963? Christ est encore notre avocat auprès du Père. 1 Jean 2, 1 et 2. Et le sang de l'agneau, avec lequel Christ en tant que souverain sacrificateur est entré dans le sanctuaire céleste, est encore sur le trône de la grâce. Hébreux 9, 11 à 14. Il est encore le médiateur de la nouvelle alliance. Hébreux 9, 15 à 22. Maintenant c'est le temps où l'époux céleste révèle les plus profonds mystères à son épouse terrestre. Amen. Citation de frère Branham. Aussi longtemps que le sang est sur le trône de la grâce, cela montre que quelqu'un est mort pour détourner le jugement. Mais après que l'Église sera enlevée, le trône de la grâce deviendra le trône du jugement. 8 janvier 1961, Jeffersonville. Trône de grâce et de jugement. Amen. Citation de frère Branham. Alors l'intercession est passée. Il a quitté le trône. Il n'y a plus de sang sur le trône de la grâce. Qu'est-il alors devenu, trône du jugement? 21 mars 1963, Jeffersonville, 4e sceau. Encore une fois cela doit être dit très clairement. Celui qui n'enseigne pas selon ce qui est écrit dans la Bible, et ne fonde pas ce qu'il dit au moins sur deux versets, ou plus, transmet un faux enseignement. Il en est de même pour ce qui concerne les déclarations de frère Branham, lorsque celles-ci sont sorties de leur contexte, et parfois même présentées en totale opposition au témoignage de la Bible. Déjà en son temps, l'apôtre Pierre avait écrit qu'il y a dans les saintes écritures, ainsi que dans les lettres de l'apôtre Paul, des choses difficiles à comprendre, dont certaines personnes mal affermies tordent le sens pour leur propre ruine. 2 Pierre 3, 14 à 18. C'est ainsi que depuis le commencement, un autre évangile a été apporté, et celui-ci se trouve inévitablement sous la malédiction. Galates 1. L'apôtre Paul nous a aussi averti qu'il y aurait des hommes qui s'élèveraient, annonceraient un autre évangile, prêcheraient un autre Jésus, et cela sous l'influence d'un autre esprit. 2 Corinthiens 11. La seule règle de mesure pour reconnaître l'exactitude d'une doctrine, fut, et sera toujours les saintes écritures. En notre temps, personne n'a autant insisté sur la signification de la parole de Dieu que frère Branham. Et personne d'autre ne l'a prêché et enseigné aussi clairement et aussi fidèlement que lui. La déclaration suivante, faite par frère Branham le 6 mars 1957 à Phoenix, Arizona, dans la prédication « Dieu veille sur sa parole » fut répété de façon similaire dans plusieurs de ses prédications, et devrait nous représenter le sérieux de la chose, et aussi parler à nos cœurs. chaque doctrine et tout le reste dans la Bible, que nous avons dans l'Église, doit être fondé sur la parole de Dieu, et doit provenir de la parole. Non pas seulement un passage, mais de la Genèse à l'Apocalypse, cela doit toujours dire la même chose. Nous ne pouvons pas nous appuyer seulement sur un passage des Écritures, car la Bible dit « Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins. » Deutéronome 17:6, Deutéronome 19:15, Matthieu 18:16, 2 Corinthiens 13:1, 1 Timothée 5:19, Hébreux 10:28. On peut se référer 100 fois à un passage, et le redire en insistant. Jésus a dit, comme pour l'ordre du baptême dans Matthieu 28:19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais si on ne cherche pas à savoir comment l'ordre de mission fut réellement exécuté par les apôtres, et si on ne consulte pas, au moins 2 témoins, ou plus, Actes 2:38. Actes 8:16, Actes 10:48, Actes 19:5, etc. Alors inévitablement, on reste dans l'interprétation qui est devenue une tradition chrétienne, mais qui en fin de compte n'est qu'une tradition trinitaire antibiblique. Depuis le jardin d'Éden, Satan n'a pas seulement séduit Ève, mais également toute l'humanité par ses interprétations de la parole de Dieu. Même lorsqu'il tenta notre Seigneur, il utilisa à chaque fois un seul passage biblique. Matthieu 4, Luc 4, lui attribuant une autre signification. Cependant, Jésus l'affronta de la seule manière juste, en lui répondant. Il est aussi écrit. La même procédure de vérification s'applique à Apocalypse 10. Dans ce passage, le Seigneur ne vient pas en tant qu'époux. Matthieu 25, 1 à 10. Il ne vient pas en tant que fils de l'homme. Matthieu 25, 31 à 46. Et non plus accompagné de tous les saints. 1 Thessaloniciens 3, 13. Ici, il vient seul en tant que l'ange de l'Alliance. Il pose son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre, et il crie d'une voix forte, comme rugit un lion. Et c'est seulement après cela que les 7 tonnerres font entendre leur voix. Afin que nul ne puisse apporter une fausse interprétation, il fut interdit à Jean d'écrire ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Ô, profondeur de la richesse, de la sagesse, et de la science de Dieu. Romains 11. 33. Nous trouvons le contexte juste, dans les passages suivants, où le Seigneur rugit. Dans Osée 11, 10, il est écrit, « Ils suivront l'Éternel, qui rugira comme un lion. Car il rugira, et les enfants accourront de la mer. » Dans Joël 3, nous trouvons aussi le mot-clé, « rugit ». Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. De Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem, non pas d'Arizona, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Amen. Il dit. Ce sont ses paroles, pas une interprétation. De Sion. L'Éternel rugit, non pas de New York, ou de quelque part ailleurs. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Amos 1, 2. Ces versets bibliques font partie du même sujet, et de manière irréfutable, ils montrent très exactement la ville de Jérusalem, la montagne de Sion, et le peuple d'Israël, ainsi que le moment, et le contexte dans lequel Apocalypse 10 s'accomplira effectivement. Qui est l'homme sur la terre qui osera réfuter les multiples témoignages des Écritures? Le 28 février 1963, le Seigneur apparut à Frère Branham sur le mont Sunset en Arizona, dans la nuée surnaturelle qui était à 35 km au-dessus de la terre. en même temps retentirent 7 puissants coups de tonnerre, et toute la contrée fut ébranlée. Alors frère Branham leva les yeux au ciel, et vit la nuée. Tel fut son témoignage. Il tapa même 7 fois avec le poing sur la chair, lorsqu'il décrivit à l'assemblée cette grande expérience. Là-bas, il fut dit à frère Branham que le temps était arrivé pour l'ouverture des 7 sceaux. Dans Apocalypse 10, il est aussi question du serment. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles. Sans l'ombre d'un doute, Daniel 12, 6 à 8, nous montre à 100% le contexte juste d'Apocalypse 10. On y lit les mêmes paroles. Et il jura par celui qui vit éternellement, puis le temps imparti est décrit, que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps. À partir du moment du serment, qui aura lieu au milieu de la 70e semaine d'année, il reste seulement 3 ans et demi jusqu'au commencement du règne de Christ, règne qui est annoncé lors de la 7e trompette dans Apocalypse 11, 15. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Durant les premiers 3 ans et demi de la dernière semaine de Daniel, qui commence juste après l'enlèvement, les 2 prophètes accomplissent leur ministère à Jérusalem. Apocalypse 11. L'Antéchrist règne pendant les derniers 3 ans et demi, en exerçant d'abominables persécutions. Apocalypse 13, 5 à 7. Il nous est dit par le prophète Daniel. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront, et lui obéiront. Daniel 7, 25 à 27. La parfaite harmonie entre l'Ancien et le Nouveau Testament est extraordinaire. Alors, le mystère de Dieu sera accompli. Apocalypse 10, 7. Comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Ce mystère fut révélé à l'Église depuis le commencement. 1 Timothée 3, 16. Mais en ce moment-là, il sera annoncé à Israël. Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Colossiens 2, 3. Sous la conduite directe du Saint-Esprit, nous pouvons exposer chaque doctrine et thème qui sont des sujets de discussion, et à chaque fois se référer à 2 témoins, ou plus, c'est-à-dire des passages bibliques. L'ordre correct. Comme il a été dit à plusieurs reprises au cours des dernières années, je voudrais une fois de plus le redire. Le ministère de frère Branham était de la plus grande signification, et cela était directement connecté au plan du salut. Il était le prophète promis, et par son ministère, tout devait être restauré et ramené dans la position juste. Depuis lors, il n'y a eu aucun autre prophète. Nous croyons que le message du temps de la fin, par la prédication de la parole, retentit maintenant comme un cri d'appel au réveil par lequel la sortie, la séparation et la préparation de l'Église épouse a lieu, car les élus se nourrissent de la nourriture spirituelle. Le dernier âge de l'Église prend fin lors de l'enlèvement. Après cela, Dieu se tourne vers Israël. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque je traiterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Romains 11, 25 à 29, Actes 15, 13 à 21. Par le dernier message, le cri retentit. Sortez du milieu d'eux, vous mon peuple. Frère Branham était l'homme envoyé par Dieu pour notre temps, comme l'a été Jean-Baptiste lors de la première venue de Christ. Cependant, de même que Jean-Baptiste n'a pas vécu jusqu'au moment de la crucifixion de Jésus-Christ, Frère Branham n'a pas vécu jusqu'au retour de Christ. Le 11 juin 1933, pendant que Frère Branham baptisait des croyants dans le fleuve Ohio, de la nuée surnaturelle il lui fut dit. Comme Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur lors de la première venue de Christ, ainsi tu seras envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Non pas lui, mais le message. Vous, comme Dieu est précis dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Frère Branham prêcha exactement la même parole que prêchèrent l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. Par ses prédications, l'ordre divin du salut fut à nouveau rétabli dans l'Église. Le messager n'est plus parmi nous depuis plus de 40 ans, mais le message est resté avec nous, message que nul ne peut ignorer. On peut parler du prophète, écrire des livres sur lui, et malgré tout vivre dans le passé, étant incapable de reconnaître ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Les véritables croyants qui vivent maintenant dans la présence de Dieu respecteront le ministère de docteur établi par Dieu, par lequel le message est mis dans l'ordre correct, en accord avec le plan du salut de Dieu. La période de temps impartie pour que le message atteigne les extrémités de la terre ne nous a pas été donnée. Dieu s'est réservé lui-même le droit d'agir en toutes choses selon son dessein. Nous savons avec certitude qu'en définitif, le retour de Jésus-Christ aura lieu en un jour, en une heure, en un clin d'œil. Celui qui enseigne autrement, à savoir que le retour de Christ est déjà en train d'avoir lieu, et ce depuis des années, est envoûté d'un esprit étranger, et envoûte les autres. Il est grand temps que prennent fin toutes les interprétations de la parole, ainsi que toutes les interprétations des déclarations de Frère Branham, qui sont difficiles à comprendre, afin que les véritables croyants soient unis dans le Saint-Esprit, pour qu'ils témoignent, croient et n'enseignent que les choses qui sont écrites dans la Bible. Que Dieu fasse grâce à tous ceux qui sont égarés, afin qu'ils se libèrent du piège que Satan leur a tendu, et dans lequel ils se sont laissés prendre. 2 Timothée 2, 26. La situation de ceux qui enseignent des hérésies est la même que celle de Corée, Dathan et Abiram, lesquels s'élevèrent contre Moïse et Aaron, qui avaient été établis comme conducteurs par Dieu lui-même. Dieu les appela arrogants. Nombre 16. Actes 13, 41. Même au temps des apôtres, il y eut des hommes qui s'égarèrent de la vérité, et prétendirent que la résurrection avait déjà eu lieu, renversant ainsi la foi de plusieurs. Paul écrivit à leur sujet. Et leur parole rongera comme la gangrène. 2 Timothée 2, 16 à 18. Pour les derniers jours, qui est le temps dans lequel nous vivons, il prédit. De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. 2 Timothée 3, 8. Chaque révélation qui vient de Dieu, chaque connaissance et doctrine biblique est claire et compréhensible. Les hérésies sont contraires à la parole et dépourvues de sens. Dieu dit par le prophète Ésaïe. Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Ésaïe 3, 12. Chaque parole de Dieu est inspirée par l'Esprit de Dieu, et utile pour l'enseignement de la vérité. Cependant, chaque interprétation est inspirée par des démons, et n'apporte que la confusion. 2 Pierre 2, et autres. tandis que les ministères établis par Dieu ont été donnés pour l'édification de l'Église. 1 Corinthiens 12, Éphésiens 4, et autres. En fait, la situation triste et désastreuse du temps de la fin, causée par les ouvriers de l'iniquité, nous est décrite dans Ésaïe 28. Là il nous est dit, « Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Cela ne demande aucune explication. La parole est la véritable nourriture qui nous est distribuée. » Matthieu 24, 45 à 47. Et le Seigneur dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Les véritables croyants mangent de la manne céleste, qui est la parole de Dieu révélée. Dans le même chapitre, le Seigneur menace ceux qui distribuent leurs vomissures, leurs propres interprétations, sur la table, et il dit qu'ils tomberont à la renverse, et se briseront, car ils seront enlacés et pris. Versets 8 à 13. Le Seigneur parle très clairement et montre ce qu'il croit être leur protection. Car nous avons la fausseté pour refuge, et le mensonge pour abri. Mais alors le Seigneur dit, « Je ferai de la droiture une règle, et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. » Verset 17. Mais au sien, il renouvelle sa promesse. « Voici, j'ai mis pour fondement, en Sion, une pierre. » Dans Zacharie 4, il est parlé de la pierre principale. Le prophète vit l'église comparée à un chandelier d'or à sept lampes, avec sept conduits par lesquels l'huile descend pour alimenter les lampes. Il vit aussi la pierre principale qui sera posée, à la place qui lui est due, au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Verset 7. À la fin, le Seigneur se lèvera, comme à la montagne de Peratsim, pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Ésaïe 28, 21. L'apôtre Paul a écrit sur cela dans Romains 9, 28. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Non pas par la résurrection d'un prophète, ni dans une tente qui ne pourrait être qu'en un seul lieu, mais cette œuvre aura lieu sur la terre entière, sous la voûte céleste. Le Seigneur ressuscité achèvera son œuvre par la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons, comme dit l'Écriture, qu'avant sa venue, le Seigneur lui-même amènera toutes choses à leur terme, par une action brève et puissante. C'est seulement ce qui nous est promis dans la Bible qui se réalisera. S'il n'y a pas de promesse, il ne peut donc y avoir d'accomplissement. Pour ma part, en vertu de l'autorité de l'appel direct, et pour rester fidèle à ma responsabilité devant Dieu, il est juste que je dise à tous. Chaque interprétation provient d'une incompréhension, et est l'œuvre de l'ennemi. Le Seigneur lui-même m'a appelé par une voix audible et puissante le 2 avril 1962, et m'a lié, lui-même, à sa parole. Lorsqu'il me dit, « Je t'enverrai de ville en ville pour prêcher ma parole. » 2 Timothée 4, 1 à 5. C'est pourquoi, je considère chaque interprétation comme une abomination. Chaque enseignement biblique unit les vraies croyances sous Jésus-Christ, la tête de l'Église. Par contre, chaque interprétation apporte la division, et les gens suivent naïvement un certain frère qui leur fait croire sa révélation spéciale, tout en se référant aux prophètes. Les vierges sages sont comparables à Marie. Elles ne connaissent point d'homme, elles n'acceptent que la parole de la promesse, elles ne croient aucune interprétation dépourvue de sens, car elles forment l'épouse-parole, qui ne peut être séduite. Quiconque déforme les déclarations de frère Branham, et ne les ramène pas dans les saintes écritures pour les éprouver, les change inévitablement en un autre message, et se rend coupable d'avoir tordu la parole de la vérité. Malheureusement, de nos jours, il faut demander. À quel message crois-tu? Car il y en a tellement. Cependant, il n'y a qu'un seul évangile éternel, qui est maintenant prêché dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, 14, à Pierre 1, 25. Divers thèmes. Il y a plusieurs thèmes qui en ce moment sont des sujets d'inquiétude pour l'humanité, et qui occupent les pensées des croyants. Le changement climatique, les catastrophes naturelles, la, soi-disant, guerre contre le terrorisme, war on terror, la flambée des prix de l'énergie, l'injustice sociale, la globalisation, la chute du dollar américain, et l'utilisation de l'euro par les pays producteurs de pétrole, l'union de toutes les religions et églises chrétiennes sous Rome, la constellation politique Russie, Iran, Chine, le processus de paix au Proche-Orient, la théorie des deux États, la question cruciale de Jérusalem, et en dernier, ce qui n'est pas sans importance, le gouvernement mondial. À l'occasion de son 50e anniversaire, nous avons été remémorés du traité de Rome, qui fut signé en mars 1957. Depuis le 21 décembre 2007, il n'y a plus de contrôle douanier et plus besoin de passeport entre les 27 pays de l'Union européenne. La dernière puissance mondiale prend définitivement forme. L'enseignement biblique sur la création a été ridiculisé dans une directive du Parlement européen à Strasbourg, le 4 octobre 2007. La majorité des voix, 48 contre 25, a voté pour que seule la théorie de l'évolution soit enseignée dans les écoles. Les blasphémateurs deviennent de plus en plus éhontés, dépassant toute limite. L'un d'entre eux a même choisi comme titre de son livre « La démence de Dieu ». Un autre opta pour en tête. Le Seigneur n'est pas un berger. En effet, l'impiété est en hausse de manière flagrante, comme cela a été annoncé pour la fin des temps. Le monde entier est devenu comme Sodome et Gomorre. L'ordre divin du mariage établi par Dieu ainsi que la famille sont considérés comme démodés, et l'homosexualité, chose contraire à l'ordre divin de la création, est publiquement admise et considérée normale. Dans cette lettre circulaire, nous ne pouvons aller en détail sur tous ces sujets. Toutes ces choses sont prédites dans les Saintes Écritures pour le temps de la fin. Dans le livre du prophète Ésaïe il est écrit « La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe, et ne se relèvera plus. » Ésaïe 24, 20. Cependant, cela n'est pas la fin, c'est seulement la fin de la vieille terre, qui est destinée à disparaître. Le Seigneur, notre Dieu, a tout prévu pour un nouveau commencement, et il nous a donné cette promesse. « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Ésaïe 65, 17. C'est ainsi que cela s'accomplira. Après la fin terrible, il y aura des nouveaux cieux, et une nouvelle terre. Apocalypse 21, dans laquelle habitera la justice. 2 Pierre 3, 13. Amen. Personne ne peut arrêter le cours de l'histoire. Dieu a déjà tout résolu, et tout se déroule d'après le calendrier de celui qui vit éternellement. La chose la plus importante est que nous soyons trouvés dans la volonté de Dieu et que le bon plaisir de Dieu repose sur nous, afin que nous soyons de ceux qui seront prêts lors du retour de Jésus-Christ, pour échapper à tout ce qui doit arriver sur la surface de la terre. Luc 21, 25 et 26. Résumé. Un mot de conclusion pour tous les frères dans le ministère. Puissions-nous tous ensemble utiliser ce peu de temps qui nous reste pour porter de manière claire comme du cristal le dernier message, tel qu'il est dans la parole de Dieu avec toutes les promesses, jusqu'à ce que nous en voyions l'accomplissement, et que les derniers soient appelés à sortir avant la fin du temps de la grâce. Nous n'avons pas besoin de sensations, ni d'une confirmation personnelle par une lumière, ou quelque chose de ce genre, mais de la confirmation de la parole, car dans Marc 16, le Seigneur a donné la promesse qu'il accorderait la confirmation à ceux qu'il a lui-même appelés à son service. La parole révélée est la nourriture spirituelle. C'est ce que frère Branham m'a dit le 3 décembre 1962, à Louisville, Kentucky, USA, en présence de deux témoins, les frères Fred Zottman et Bank Woods. Il m'a dit, « Frère Frank, attends avant de distribuer la nourriture, jusqu'à ce que vienne le temps, et que tu aies reçu le reste de la nourriture. Ensemble, avec tous les véritables frères dans le ministère qui sont dans différents pays, nous voulons distribuer la nourriture spirituelle au peuple de Dieu. C'est ce que je fais depuis 1966, traduisons les prédications de frère Branham en allemand, lesquelles ont été d'une grande bénédiction pour beaucoup de gens. Après que Moïse eut achevé son ministère, la parole de Dieu révélée fut placée dans l'arche de l'Alliance. Josué ordonna aux sacrificateurs de porter l'arche sur leurs épaules, c'est ainsi qu'il traversa le fleuve Jourdain ensemble avec le peuple, et qu'ils prirent possession de la terre promise. C'est exactement ce qui se passe maintenant. Nous avons la parole de Dieu dans toute sa plénitude, nous possédons toutes les promesses, et nous allons de l'avant par la foi jusqu'à ce que nous expérimentions l'accomplissement de toutes choses. Pour la fin de l'année. L'année 2007 fut une année extraordinairement bénie. Jamais auparavant autant de personnes, dans autant de pays, n'ont pu entendre la véritable parole. Jamais auparavant, nous n'avions pu atteindre autant de gens par les retransmissions directes de nos réunions mensuelles de Krefeld et de Zurich. Nous sommes très reconnaissants à Dieu de nous avoir accordé la possibilité et la capacité d'apporter par Internet le dernier message jusqu'aux extrémités de la terre. Pour le moment, nous retransmettons dans cette langue en direct, et Dieu voulant, à partir de la deuxième moitié de l'année 2008, nous aurons la possibilité d'émettre les réunions en 12 langues différentes. Qu'il me soit permis d'exprimer ma gratitude envers tous ceux qui soutiennent fidèlement l'œuvre missionnaire. Nous pouvons assurer à 100% que cette œuvre est établie par Dieu lui-même, et que le service que nous lui offrons est en sa volonté parfaite. Selon la commission directe reçue du Dieu Tout-Puissant, nous avons prêché jusqu'à ce jour la véritable parole de Dieu. Le Seigneur, par sa grâce, a été et sera avec nous jusqu'à la fin. À cause de la vérité qui demeure en nous, et qui sera avec nous pour l'éternité. 2 Jean 2. Dieu voulant, je continuerai à être à Krefeld pour les réunions de chaque premier week-end du mois, et à Zurich pour les réunions du dernier dimanche du mois. Le reste du temps est consacré au travail au centre missionnaire, et au voyage dans différents pays. Dieu voulant, nous aurons notre première réunion internationale à Krefeld, le 5 et 6 janvier 2008. Le voyage en Israël sera prolongé d'un jour. La compagnie aérienne, elle, Al, n'a pas suffisamment de place, le 15 mai 2008, c'est pourquoi notre vol de retour est reporté au 16 mai. Le prix majoré pour ce jour supplémentaire n'est que de 30 euros. Cela nous permet de rester un jour de plus à Jérusalem. Nous avons déjà plus de 80 inscriptions pour ce voyage, ce qui veut dire que nous sommes presque au complet pour la location de 2 bus. Par expérience, nous savons qu'à la dernière minute, il y en a qui se retirent, si bien que si quelqu'un venait à se décider tardivement, qu'il s'inscrive quand même. Avec pleine confiance, nous entrons dans l'année 2008, sachant que le Seigneur qui acheva l'œuvre de la création, est le même qui achèvera son œuvre de la rédemption. Dieu lui-même a pris toute la responsabilité pour son plan du salut, et nous nous laissons insérer dans son dessein éternel. C'est mon désir que tous les frères et toutes les sœurs deviennent pour chacun une bénédiction, car c'est ce que Dieu a promis à Abraham. Je te bénirai. Et tu seras une source de bénédiction. N'ayez pas honte de partager avec les autres les promesses de Dieu, ce qu'il a fait, et ce qu'il continue de faire aujourd'hui. Prenez votre position pour la parole avec le Seigneur. Je souhaite à tous une année 2008 bénie. Et puisse le Seigneur être avec vous tout au long de cette année. Agissant de la part de Dieu. Frère Franck. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. 2 Chroniques 16, 9. Celui qui abandonne ne peut jamais vaincre. Un vainqueur n'abandonne jamais. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Apocalypse 21, 7.